avant d'aller plus loin. Merci. Alors Seigneur, nous avons entendu dans cette lecture que Jean a fait pour nous que tu prouves ton amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Et cette vérité, que cela se trouve encore, Seigneur, au centre de notre espérance en tant que peuple de Dieu. Et que tu nous parles, que tu fais en sorte que nous sortions de cette pièce avec envie, effectivement, de placer notre fierté en toi, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons reçu la réconciliation. Que ton nom, Seigneur, donc, soit glorifié, nous t'en prions. Amen. Alors, 48 nations, 104 matchs, diversité, bruit, les yeux de la FIFA noyés de dollars, etc. Qu'on le veuille ou non, chers amis, la Coupe du monde du foot est avec nous. L'Écosse apparemment a gagné hier. Je ne suis pas écossais, mais bravo à eux. C'est un moment, il me semble, pour contempler la couleur, les drapeaux, les hymnes nationaux d'un grand mélange de nations. Je ne suis pas conscient, est-ce que le Guatemala est qualifié pour la Coupe du monde? J'ai des doutes, mais courage si c'est le cas. Et bien que la Brabanson soit sur le menu demain soir, certaines nations vont jusqu'à invoquer Dieu lui-même dans les hymnes nationaux. L'Angleterre, t'as peut-être vu, comprenez que j'ai une petite affinité avec les Anglais. God save the King. L'un des plus célèbres au monde, celui-là, n'est-ce pas? Les paroles implorent directement Dieu de protéger et de faire triompher le souverain. Ensuite, les États-Unis, the Star Spangled Banner. Quatrième couplet de l'hymne américain contient la devise officieuse du pays. And this be our motto, que cela soit notre devise, in God is our trust, en Dieu est notre confiance. La Norvège, peut-être vous connaissez un grand joueur de la Norvège qui joue pour City. Alors, je ne vais pas essayer de prononcer ceci en norvégien parce que sans doute je ferai des erreurs. Alors, cet hymne fait référence à la foi chrétienne et demande de la protection de la part de Dieu pour leur pays. Que Dieu préserve notre chère patrie. La Nouvelle-Zélande, God defend New Zealand. Sa traduction littérale est une véritable prière nationale. Et ensuite, les Pays-Bas, le Wilhelmus, je pense, Wilhelmus, voilà, vous me corrigez plus tard. Cet hymne historique, peut-être le plus vieux qui soit, exprime une foi profonde, déclarant placer sa confiance en Dieu face aux épreuves. Alors oui, j'imagine que nous le savons tous, c'est un peu ridicule encore aujourd'hui de croire que Dieu serait particulièrement derrière l'une ou l'autre nation, surtout pour le foot, on s'en fiche du foot. Lorsque les Anglais perdent, et hélas, ils perdent plus souvent qu'ils gagnent, nous n'avons pas tendance aujourd'hui à blâmer Dieu pour la défaite, mais plutôt on blâme les Allemands, les Français, les Espagnols, etc. Et cela sert donc pour nous comme un pont vers notre texte de ce matin. Jérémie chapitre 48. Car dans l'Antiquité, et encore un tout petit peu aujourd'hui je dirais, lorsqu'une nation partait en guerre, elle invoquait son Dieu. Et donc si cette nation subissait une défaite, cela signifiait également une défaite pour leur Dieu. Leur Dieu, pour finir, n'était pas aussi fort que le Dieu de la nation victorieuse. Ça marchait comme ça. Et dans cette perspective, la défaite d'Israël, lors de l'époque de Jérémie, le peuple de Dieu d'Israël, issu d'Abraham, vaincu par des Babyloniens, lors du VIe siècle avant Jésus-Christ, parce que cette défaite aurait dû signifier la défaite de Dieu le Dieu d'Israël, le Seigneur. Mais ce n'est pas ainsi que Jérémie, prophète de ce Dieu d'Israël, réagit face à cette défaite. Le Dieu d'Israël, il ne cesse d'annoncer tout au long de sa prophétie, est le Dieu de toutes les nations, de tout peuple. Il n'appartient pas exclusivement donc à Israël, non. Il est plutôt le créateur de l'ensemble des nations, de l'univers tout entier. Et donc c'est lui, le Dieu d'Israël, qui a suscité, on verra ceci encore la semaine prochaine, d'autres nations, y compris les Babyloniens, mais l'Assyrie avant cela, il les suscite pour punir son peuple à lui. Et donc la défaite d'Israël ne signifie pas la défaite donc de Dieu. C'est lui en fait qui a orchestré la défaite de son peuple à lui. Lui qui s'est servi d'autres nations pour accomplir son plan. Et dans la dernière partie du livre de Jérémie, à partir du chapitre 46 jusqu'à la fin du chapitre 51, Dieu s'adresse aux autres nations de par le prophète Jérémie. On voit ça au verset 1 de notre texte. Sur Moab, donc ce n'est pas le peuple d'Israël, mais il s'agit du peuple des Moabites, ainsi parle le Seigneur. Désormais, le Dieu d'Israël. Dieu s'adresse à Moab. Il a un plan, Dieu, pour toutes les nations. Si vous vous rappelez, ceux qui sont avec nous depuis le début de cette assez longue série dans le livre de Jérémie, vous vous souvenez du verset résumé de l'ensemble du livre au chapitre 1 de Jérémie, versets 9 et 10, dit ceci. « Regarde, Dieu dit à Jérémie, je te donne en ce jour autorité sur les nations et les royaumes pour déraciner, pour démolir, pour faire disparaître, pour raser, mais aussi pour bâtir, pour planter. » Cela est son projet donc pour toute nation, pas uniquement Israël. Et donc il s'adresse à ces nations, qu'elles soient grandes ou petites, dans cette partie du livre, 46 à 51. Et il commence et il termine avec des superpuissances de l'époque, l'Égypte au chapitre 46, Babylone à partir du chapitre 50. Entre ces deux grands-là, il s'adresse aux nations avoisinantes d'Israël, y compris donc Moab, un territoire qui se situe aujourd'hui en Jordanie, sur la rive orientale de la mer Morte. Un peu comme la Belgique aujourd'hui se situe entre l'Allemagne à droite et la France à gauche, Dieu prend la peine de s'adresser à cette petite nation qui se situe entre deux grandes superpuissances, qui s'appelle Moab. Et de là, je pense, nous pouvons dire, alors que Dieu, le Dieu des nations, prend le temps de nous adresser à nous ce matin, parce que même si nous nous disons pas chrétiens, il se peut que vous êtes en visite parmi nous, et tu te considères donc pas faisant partie de ce peuple chrétien, Dieu néanmoins te parle encore ce matin. Car vous aurez tendance d'office à dire que tu assistes à un truc si vous n'êtes pas chrétien, ou des chrétiens, eux, ils font leur truc. Les chrétiens parlent à leur Dieu. Et vous avez simplement par le fait que tu écoutes poliment mes paroles ce matin, du respect pour cela. Bravo à vous d'être avec nous. Mais ma tâche ce matin, c'est de t'aider, toi, à voir que ce que Dieu dit à travers Jérémie, il te le dit à toi aussi, parce qu'il est aussi ton Dieu. Et donc, le titre de notre message ce matin est celui-ci. Écoute Moab et écoute toi aussi. Le Dieu d'Israël, il est aussi ton Dieu. Et bonne nouvelle, le projet de Dieu n'a jamais été un projet qui avait pour but de se concentrer sur une seule nation. Son projet, oui, démarrait avec Abraham et le peuple issu de la descendance d'Abraham, le peuple d'Israël. Mais même le nom d'Abraham annonce le projet de Dieu, car Abraham signifie père d'un grand nombre de nations. Le projet de Dieu est d'être une bénédiction pour l'ensemble des nations, car il est le Dieu de toutes les nations. Le Dieu d'Israël est le seul unique Dieu, mais qui se révèle à nous suprêmement par la personne de Jésus-Christ. Et le projet de Dieu s'accomplit à travers l'œuvre de Jésus-Christ. C'est grâce à Jésus-Christ, mort et ressuscité, et alors la foi, la confiance que nous plaçons en lui, que la Bible nous dit dans le Nouveau Testament, « Toutes les nations sont bénies ». Alors, je cite l'apôtre Paul dans l'une des épîtres du Nouveau Testament, Galates, chapitre 3. L'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs, donc les nations païennes, comme justes sur base de la foi. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Donc si donc à l'époque de Jérémie, Dieu parlait à la nation de Moab, un état-nation comme si elle se présentait à la Coupe du Monde de cette époque. Aujourd'hui, il faut comprendre que Dieu ne s'adresse plus à une seule nation, un État-nation, comme si seulement la Belgique écoutait ce que Dieu disait, notre nation de la Belgique serait bénie. Non, ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Jésus-Christ. Quand Dieu parle à toute personne, de toutes les nations, et il les appelle à rejoindre un peuple plutôt international, qui ne constitue pas l'Église de Jésus-Christ, un État-nation, mais un peuple, Jésus-Christ, qui traverse toutes les frontières. Jésus, c'est l'espoir des nations, et cela de par ce qu'il a fait pour tout homme à la croix. Tu as racheté, dit le Nouveau Testament, pour Dieu, en parlant de Jésus-Christ, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un État-nation saint, qu'il s'agisse des États-Unis, la Belgique, le Royaume-Uni, la Chine, etc. Aucune nation, y compris la nation d'Israël d'aujourd'hui, peut réclamer être une nation sainte. Car cette promesse-là est réservée dans le Nouveau Testament à ce peuple international, composé, oui, de personnes d'arrière-plan juifs et non-juifs. Ce peuple, c'est le peuple de Jésus-Christ, son Église. Et en fait, le livre des Actes, on va arriver bientôt à Jérémie, ne vous inquiétez pas, le livre des Actes, dans le Nouveau Testament, trace le début de l'Évangile, du progrès de l'Église, de Jérusalem au départ, là où il y avait 12 hommes d'arrière-plan juif, de culture juive, mais jusqu'aux extrémités de la terre, via une expansion impressionnante au début de l'ère de l'Église, avec des églises locales, comme une église comme la nôtre, des postes diplomatiques du royaume de Jésus-Christ, si vous voulez, éparpillés dans l'ensemble de l'Empire romain. Acte termine avec cela. Ces églises composées d'une multitude de personnes de différentes nationalités, sans que la culture juive, avec ses mœurs et ses lois, leur soit imposée. L'avenir donc que Dieu il a pour les nations ne se trouve pas à travers un programme nationaliste, peu importe si nos affiliations politiques sont plutôt de droite ou de gauche. Le projet de Dieu n'est pas de « make Belgium great again », mais plutôt de voir le peuple de la Belgique venir à la foi en Jésus-Christ et de faire partie d'un peuple international qui influence, oui, la société dans laquelle on se trouve pour le bien, Dieu voulant, mais sans faire du royaume de Dieu un programme politique pour un pays. Voyons donc enfin ce que Dieu, à travers Jérémie, disait à Moab, et alors par conséquent à nous, soit pour nous encourager à nous tourner vers Jésus-Christ dans la foi, soit de nous fortifier encore dans notre foi. Donc, de nouveau, sur le plan, écoute Moab, et écoute toi aussi, le Dieu d'Israël, il est aussi ton Dieu. Alors, sache que, premier point, Dieu te tient responsable pour ton péché. Dieu te tient responsable pour ton péché. Lors de la lecture, c'était plus ou moins clair, n'est-ce pas, que Jérémie annonce aussi le jugement sur Moab. Verset 2, il n'y a plus de louange pour Moab. À Heshbon, on prépare son malheur. Allons, retranchons-le d'entre les nations. Toi aussi, Madmen, tu seras réduite au silence. L'épée te poursuit. Tous ces différents noms qu'on voit dans ce chapitre représentent des villes à Moab ou en Moab. Verset 3, des cris se font entendre depuis Horonaïm. Ravage et grand désastre. Donc, jugement, oui. Mais pourquoi? Parce que Dieu te tient responsable pour ton péché, d'abord ton péché d'orgueil. D'orgueil. Pourquoi? Car il s'agissait, les Moabites, d'un peuple fier d'eux-mêmes. Verset 7 de notre texte. En effet, parce que tu as mis ta confiance dans tes œuvres et dans tes trésors, toi aussi tu seras pris. Et Kemosh s'en ira en exil avec ses prêtres et ses princes. Kemosh était le dieu des Moabites, avec la tâche de protéger le peuple Moabite. Mais les Moabites étaient surtout, en fait, confiants en eux-mêmes, car Moab était une nation aisée, riche. L'un des rois de Moab, d'après le livre 2 Rois, chapitre 3, payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et 100 000 béliers avec leur laine. Un indice, cela, que Moab avait des moyens vraiment considérables. Moab était aussi un pays de vignobles conséquents. Il était connu pour son vin. On sait ça aussi de par le prophète Ésaïe. Du bon vin. Sa réputation dans ce domaine est évoquée au verset 32, plus tard, dans ce chapitre. 32, « Vigne de Sibma, je te pleure plus que Yazar ne te pleure. Tes sarments dépassaient la mer, ils atteignaient la mer de Yazer. » Et comme pour toute personne aisée et sûre d'elle-même, le danger réside dans le fait de se croire donc autonome. Verset 29, « Nous avons appris l'orgueil de Moab. » Un orgueil extrême, son arrogance, son orgueil, sa suffisance, son cœur hautain. Quel piège, les amis, n'est-ce pas, de bénéficier de la bonté et la grâce commune de Dieu, de beaucoup de bonnes choses qu'il nous donne, et de retomber dans une sécurité et une confiance mal placée qui me fait croire que je n'ai pas besoin, moi, de m'agenouiller devant le Dieu créateur. J'ai de l'argent, j'ai de quoi pour vivre et manger convenablement. Pourquoi ai-je besoin de Dieu? Mais quelle arrogance! Car d'où vient la vie, le souffle? Et toute chose dont nous bénéficions. Pour reprendre l'apôtre Paul, lorsqu'il prêchait à Lystre dans le livre des Actes, qui leur a envoyé du ciel les pluies et les saisons fertiles pour leur vignoble? Qui les a placés dans un endroit propice pour une telle productivité, un endroit où des richesses venaient aussi facilement? Qui vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie? Dieu, le Dieu créateur, le maître de l'univers. Il a fait ça pour eux et il a fait ça aussi pour nous. Et donc l'homme moabite ou bruxellois, il réagit comment face à cette générosité? Bon, ils ignorent celui qui leur a donné tout cela. Ils sont fiers plutôt de leur propre construction, le montant dans leur compte en banque, leur accomplissement, comme si leur cerveau venait d'eux. Bon, vous imaginez quel orgueil de prendre Dieu pour acquis, quel orgueil d'ignorer jusqu'à quel point vous avez réellement besoin de Dieu. Peu importe notre ambition, peu importe notre réussite dans cette vie, que je vienne de réussir peut-être mes examens cette semaine, ou que ma fortune vient de franchir la barre des 1 000 milliards de dollars. Timothée devait avertir dans le Nouveau Testament des chrétiens riches, aisés. Que disait l'apôtre Paul à Timothée ? De les recommander de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Car que dit le verset 30 de notre texte ? Moi, je connais, déclaration du Seigneur, son emportement, mais il est inutile, ses vantardises, mais elles sont inutiles. Donc vous voyez d'abord, Dieu les tient responsables de leur péché d'orgueil, mais ensuite celui d'idolâtrie. Car eux, ils avaient adoré à un Dieu qui n'en est pas un, Kemosh, qui lui, verset 17, ira aussi en exil avec ses prêtres et ses princes. Kemosh n'était qu'une invention moabite pour le bien des Moabites. Moab, verset 13, aura honte de Kemosh, comme la maison d'Israël a eu honte de Beth-El, à laquelle elle se fiait. Alors, à l'époque de le premier roi, le royaume du nord d'Israël, Jéroboam, a placé sa confiance dans le veau d'or que Jéroboam avait érigé à Beth-El. Et cela terminait mal pour le royaume du nord. De même, alors, dit Jérémie, pour Moab, par rapport à leur dieu, Kemosh. Kemosh, cette création moabite. À un moment donné, le roi des Moabites sacrifiait la vie de son fils aîné afin de plaider la faveur de Kemosh. Voici un dieu créé par l'homme qui doit être persuadé d'agir par de telles actions. Adorer une création de l'homme, au lieu d'adorer le Créateur, ne fait pas preuve de sagesse, de spiritualité, mais de folie. Et un jour, nous serons, chacun d'entre nous, face à notre Créateur. Et à ce moment-là, tout ce que nous avons construit pour être fiers de nous-mêmes s'écroulera. Et on aura besoin de ce que uniquement le vrai Dieu Créateur souverain peut nous offrir. Le pardon et la grâce. Car si Dieu nous tient responsables pour notre péché, c'était notre premier point, sache que le jugement de Dieu viendra sur toi. Aussi, un tel jugement est inévitable et partout dans ce chapitre, il me semble. Verset 9, donnez des ailes à Moab, qu'ils s'éloignent en volant. Ces villes seront dévastées, elles n'auront plus d'habitants. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Mais quelle est l'œuvre du Seigneur ici? Maudit soit celui qui prive son épée de sang. C'est fort. À partir du verset 11, l'illustration du bon vin est retournée sur Moab. Moab était tranquille, verset 11, depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lie. Il n'a pas été vidé d'un récipient dans un autre. Il n'est pas allé en exil. Aussi, son goût est resté, son odeur n'a pas changé. Alors ça, c'est bon pour le vin, bien entendu. Mais verset 12, c'est pourquoi les jours viennent, déclaration du Seigneur, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront. Ils videront ses récipients et feront éclater ses outres. Et l'expérience agréable à ce moment-là de boire du bon vin devient une image de jugement. Plus tard, verset 26, enivrez-le, car il s'est élevé contre le Seigneur. Que Moab se débatte dans son vomissement et qu'il soit lui aussi en but de la dérision. Verset 33, la joie et l'allégresse ont disparu du verger et du pays de Moab. J'ai fait tarir le vin dans les cuves. On ne foule plus avec des cris de la vendange, des cris de joie, parce qu'encore de la prospérité pour nous. Non, les cris de la vendange ne sont plus des cris de vendange, d'autres cris de douleur. Verset 35, je veux en finir avec Moab, déclaration du Seigneur, avec celui qui monte sur les hauts lieux et qui offre de l'encens à son Dieu. Le jugement, alors, viendra sur toi aussi, Moab, mais sur nous aussi. Chacun d'entre nous, nous sommes concernés. Car Jésus-Christ n'est pas simplement, et j'espère que vous compreniez ceci, mon sauveur, celui qui vous parle ce matin. Bah, super qu'il te sauve, toi. Comme si vous n'en avez pas besoin. Mais si, vous en avez besoin. Écoutons aussi l'apôtre Paul, qui parle à des non-juifs, des nations, à Athènes, dans Actes chapitre 17. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils se disent chrétiens ou autres, qu'ils doivent changer d'attitude, se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice, par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Conclusion, un jour, nous nous retrouverons, chacun d'entre nous, face à face à Jésus-Christ, lui ressuscité d'entre les morts, comme preuve que nous aurons tous le devoir de nous apparaître devant lui. Et son jugement sera juste. Sur base de ce que chacun d'entre nous, nous connaissons déjà de Dieu. Car Dieu attend de chacun de nous que nous respectons les normes de décence et de justice élémentaire, que nous ayons ou non une connaissance approfondie de ce Dieu qui est là et de ce qu'il demande de nous. Nous serons jugés selon cette connaissance dont témoigne notre conscience inné que nous avons de lui, parce que nous sommes créés par lui, qu'on soit belge, britannique, béninois, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on joue bien ou mal au foot. Car peu importe ta vie aisée, ta popularité, ta nationalité, ta fierté, tu es responsable envers Dieu qui t'a créé pour. Tu es responsable envers le Dieu qui t'a créé pour ton péché. Le verset 2 nous dit qu'il n'y a plus de louange pour Moab. Et nous lisons ce verset 2 et nous savons que depuis un long moment, cela est le cas. Il n'y a plus de louange pour Moab parce que personne ne parle aujourd'hui de Moab. Moab ne va pas remporter la Coupe du Monde car Moab n'existe plus. Mais combien c'est facile d'être aveuglé par notre aisance du moment, par notre popularité du moment, le renom temporaire que le monde peut nous offrir et se croire en sécurité grâce à cela. Mais il faut attendre rien qu'une génération ou deux avant que ce que le quelqu'un que je suis actuellement soit complètement oublié, les amis. Sache donc, oui, que Dieu te tient responsable pour ton péché d'orgueil, ton péché d'idolâtrie, et que le jugement de Dieu viendra aussi sur toi. Mais si cela est une part de ce que toi, Moab, tu dois savoir, il faut aussi, deuxième partie, que tu saches deux autres choses. Deux autres choses. Sache également que Dieu se lamente à ton sujet. Le temps de ces lamentations est là dans ce chapitre. Lamentation envers une nation païenne, pas le peuple de Dieu. Verset 17, plaignez-le, vous tous qui l'entourez, vous tous qui connaissez son nom. Dites comment il a été brisé, ce sceptre puissant, ce bâton splendide. Vous n'entendez pas la tristesse de voir quelque chose de si puissant, de si splendide, tout d'un coup brisé. C'est un peu, si vous voulez, j'essaie de puiser les illustrations du foot, C'est un peu la différence entre Maradona. Alors, j'espère que les jeunes connaissent, ils ont entendu parler de Diego Maradona. Si ce n'est pas le cas, allez, recherchez-le sur YouTube plus tard. Le Maradona de 1986, là où il était au Mexique, dans ce grand stade, là où il y avait la main de Dieu, si vous vous souvenez de cela. Mais aussi, il était au sommet de son jeu. Et la différence entre ce Maradona-là et le Maradona qu'on connaissait par la suite, accablé par l'addiction, le surpoids, des associations criminelles, etc. C'était triste de contempler cette différence. Qu'à un moment donné, il était si, si glorieux. C'est ça ce que Dieu lamente de Moab. Encore au verset 31, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un Moabite qui parle au verset 31. C'est pourquoi je hurle sur Moab. Je crie pour Moab tout entier. Je gémis au sujet des gens de qui Erès. Vigne de Sibma, je te pleure plus que Yazer ne te pleure. Tes sarments dépassaient la mer, ils atteignaient la mer de Yazer. Celui qui ravage tout s'est jeté sur ta récolte et sur ta vendange. On peut se poser la question, mais pourquoi autant d'émotion de la part de Dieu, le Dieu d'Israël, pour cette nation païenne? Dieu, il exerce son jugement, non? Il était temps. Parce qu'il est le Dieu de Moab. Il est le créateur de ce peuple. Il connaît intimement Moab. Il est responsable de la gloire et de la splendeur de Moab pour le bon vin de Moab. Et du coup, verset 36, « Aussi mon cœur frémit comme les flûtes sur Moab. Mon cœur frémit comme les flûtes sur les gens de Kir-Eretz, parce que le profit qu'ils ont amassé est perdu. » Parfois, même dans l'Église, nous mettons en avant le jugement de Dieu comme si nous nous y réjouissions. Comme si, « Amen, enfin ils auront ce qu'ils méritent. » Mais le côté compassion de Dieu doit être maintenu lorsque nous évoquons le jugement. Chacun d'entre nous, nous portons tous, qu'on soit Moabite, Israélite, Belge, etc., nous portons tous l'image de notre Créateur. Et cela nous accorde une dignité innée, peu importe notre péché. Dieu dit, l'Ancien Testament, ne prend pas plaisir à voir le méchant mourir. Dieu dit, le Nouveau Testament désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et je reviens de nouveau sur ce que Paul disait aux Athéniens, acte 17. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les hommes, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent se repentir. Encore aujourd'hui, vous savez, encore aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Oui, il y a moyen aujourd'hui de se tourner, vous ici présents, vers le Seigneur. Car le Seigneur désire cela. Que son jugement n'est pas encore tombé, ne soit pas encore tombé, nous donne encore cette possibilité de nous tourner encore aujourd'hui vers lui. L'apôtre Pierre nous dirait ainsi. Dieu fait preuve de patience envers nous, voulant que aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu, il est bon en nous appelant à la repentance. Il y a 15 jours, à Buggenhout, en Flandre, peut-être vous avez entendu parler de ceci, un minibus scolaire qui a été percuté par un train, alors que le train traversait les voies, malgré les barrières abaissées. 4 personnes ont perdu la vie, dont 2 adolescents. L'enquête se poursuit pour comprendre pourquoi le chauffeur ne s'est pas arrêté. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que ces barrières servaient, n'est-ce pas, comme un avertissement. C'est dangereux de traverser ici. Ne traversez surtout pas à ce moment-ci. L'avertissement n'a pas pour but de condamner toute personne qui traversait, mais plutôt de les préserver du mal. Les barrières n'ont pas pour but d'empêcher la liberté de l'homme, mais plutôt de protéger la vie de l'homme. Dieu, car il est compatissant, il est miséricordieux, encore aujourd'hui, envers toi, envers moi, il nous avertit, chacun à son tour, de ce jugement à venir, de notre besoin de prendre refuge en lui. Car il est notre Dieu, il nous connaît et il nous appelle à lui. Et donc, Dieu se lamente à ton sujet, et ensuite, et on termine, Dieu envisage ton rétablissement. C'est ainsi que viendra le rétablissement dont parle le verset 47, le dernier verset de ce chapitre. Mais dans la suite des temps, verset 47, après toute une annonce de jugement, je rétablirai la situation de Moab, déclaration du Seigneur. Donc vous voyez, la note finale n'est pas une note de jugement, mais d'espoir. Cette expression « dans la suite des temps » nous renvoie, d'après d'autres prophéties de l'Ancien Testament, vers le temps où le Messie promis viendra pour appeler des gens de toutes les nations à lui. Bien qu'après l'exil, certains Moabites aient retrouvé leur pays, c'est en Jésus-Christ, le roi promis par Dieu, par la foi en celui qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité pour nous donner la vie, que nous devenions héritiers des promesses de Dieu. Pas simplement d'une parcelle de terre appelée Moab, mais d'une terre entière renouvelée, dont Moab, comme toutes les nations, font partie. Et dans cette nouvelle terre, dans la nouvelle Jérusalem, la ville d'après Apocalypse, le dernier livre de la Bible. La ville n'a pas besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Dans tout dont on peut bénéficier aujourd'hui par la grâce commune de Dieu, du bon vin, la laine des agneaux qu'ils avaient à Moab, tout cela aura sa place dans la nouvelle création. Et nous aurons notre place quand nous aurons trouvé le pardon de nos péchés. Et cela grâce à l'œuvre de l'agneau, Jésus-Christ, sacrifié comme innocent pour nous des pécheurs. Jésus-Christ condamné, exilé pour nous, pour que nous puissions connaître la paix avec Dieu. Vous savez que dans la Bible, le livre de Ruth est un livre qui parle d'une Moabite. Grâce au courage et à la foi de Ruth, cette Moabite, elle a vu le renversement de la situation de sa belle-mère Naomi. Et Ruth est devenue l'un des ancêtres du grand roi David. Et alors également, donc, l'un des ancêtres du descendant de David, le Seigneur Jésus-Christ. Le nom de Ruth se trouve dans la généalogie de Jésus. Donc Dieu peut faire d'une Moabite comme Ruth quelqu'un d'utile et précieux à son service. Dieu peut faire d'une Bruxelloise ou d'un Bruxellois quelqu'un d'utile et précieux à son service. Quel sera notre hymne à nous, notre hymne national, ceux qui ont été rachetés parmi les nations par le sang de l'agneau? Alors je termine avec ce que dit le livre d'Apocalypse à ce sujet. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Et ils criaient d'une voix forte. Donc voici ce qu'on chante. Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. Et nous écouterons aussi une chorale céleste à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'eux, ils chanteront? Tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens des quatre êtres vivants se prosternaient, le visage contre terre devant le trône, et ils adoraient Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Je vous invite, chers amis, à prier. Merci, notre Dieu, que tu prévois pour nous, pécheurs que nous sommes, laissés à nous-mêmes. Tu prévois un avenir, un rétablissement qui est glorieux, et cela grâce à l'œuvre de l'agneau qui s'est donné pour nous à la croix. Et donne à chacun d'entre nous de nous tourner vers lui, d'être fortifié en lui, de comprendre que oui, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à toi, notre Dieu, et cela au siècle des siècles.